Bonjour Christophe Huysmans.
Bonjour.
On va donc parler ce matin des repas HIC autour d'un café. Les repas HIC qui sont en ce moment donc au Théâtre de la Bastille jusqu'au 20 décembre. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment s'inscrit ce projet, donc les repas HIC, dans l'aventure HIC, qui serait un peu l'occasion de nous représenter un peu cet univers HIC et en même temps qui s'appelle maintenant, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça depuis le début, Laboratoire Mobile HIC.
Laboratoire Mobile, c'est une notion qui est née d'une discussion qu'on a eue en groupe quand on était à Los Angeles en résidence. On souhaitait se constituer non seulement en compagnie, qui est un organe en fait juridique et puis qui permet de s'occuper administrativement de la compagnie au niveau de la production, etc. Mais au niveau du travail artistique, on n'avait pas une appellation contrôlée, comme on dirait, une appellation qui nous rassemble. Et on s'était dit, comme on travaille dans une fabrique, et que l'idée de la fabrique, on l'a toujours d'ailleurs, hein, on a envie d'une fabrique, on aimerait bien avoir une fabrique. Et on s'est dit, dans une fabrique, qu'est-ce qui travaille dans une fabrique? Alors ça peut être une troupe, etc. Puis on s'est dit, en fait, on cherche, on est en recherche et on revendique beaucoup ça. Et je me suis dit, il faut qu'on ait au moins un cycle, en fait, quelque chose qui puisse nous représenter comme des gens qui cherchons. Et on s'est dit, bon, on est des laborantins. Donc on fait des tentatives, des essais, ça réussit, ça rate, et on préfère, bon, puis on essaye de montrer ce qui réussit quelquefois. On essaye de montrer des choses en performance qui sont, comment on va dire, en travail, quoi. Voilà.
Ok. Alors, l'écriture dans ce projet, les repas HIC, est encore une fois le résultat d'un processus de retour un peu sur votre vie, comme matériau. Mais justement, cette fois, quelque chose de très différent de ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'il y a vraiment une mise à distance. Vous ne jouez pas, c'est pas exactement au sens stricto, votre vie exploitée. Déjà, l'écriture intervient comme enregistrement, au sens strict de morceaux de vie, avant de devenir ensuite des pures créations rythmiques, quasi musicales. Donc, il y a un effet un peu de mise à distance et de réorganisation de rythme. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le processus d'écriture justement de ce projet.
En fait, c'est né... HIC, machin, toute l'histoire HIC, ça vient d'une captation, en fait, non pas de la vie privée, mais je me sers, en fait, d'un lieu de l'intime, de l'intime dans lequel moi je m'engage. En fait, HIC, c'est un signe d'engagement vraiment de moi-même dans ce projet. Et donc, j'ai capturé, en fait, des repas. Entre à peu près, il y avait 9 personnes qui ont été conviées tout au long de ces 3 ans à peu près. Alors j'adore, un jour je dis 3 ans, après je dis 2 ans. Enfin.
Ouais.
Mais ça a coulé de 97 à 2000, un truc comme ça. En 99, j'ai vraiment travaillé en 2000. Enfin, j'ai laissé un an. Alors d'abord, qui sont ces amis? Qu'est-ce qui nous rassemblait? Ce qui nous rassemblait, c'était d'avoir notamment... ou militer, ou être proche de militants, ou être dans une certaine, on va dire, mouvance, en fait, d'un endroit de militantisme, qui est militantisme caractérisé par une chose assez courante, en fait, ces 15 dernières années, où les gens se sont, les altermondialistes d'ailleurs font dans ce sens-là, je trouve, se caractérisent par un engagement intime, c'est-à-dire un engagement de soi, profondément, et un engagement pour défendre l'intégrité de la personne, l'intégrité du singulier et l'intégrité du pluriel, du collectif et de l'individu. Et c'est cet engagement-là qui est assez partagé par une certaine, je trouve, par les jeunes militants, on va dire les militants plus récents en fait, ou une nouvelle forme de militance, qui rassemblait ces personnes. C'était des personnes qui avaient cette action-là sur la vie en tout cas. Et ces gens avaient aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils avaient un humour qui m'a semblé absolument réjouissant, en tout cas moi qui m'amusais beaucoup, parce que c'est pour ça qu'on avait le plaisir aussi à se voir, et il n'était pas question de refaire le monde autour d'une table, pas du tout du tout, il était question de partager énormément déjà le plaisir d'être vivant. En fait, le point de départ, c'était de partager, nous sommes vivants, ça nous amusait beaucoup de dire ça, et on n'en revenait pas. Et donc, il y a ce partage-là de l'étonnement de soi au monde. Et c'est pour ça que je cite à un moment Saint-Augustin dans le livre « Commencement, l'homme fut créé ». Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de commencement tant qu'il n'y a pas d'homme, en fait. Et chaque naissance est un recommencement, en fait. Donc c'est aussi une idée, je trouve, profondément laïque du politique et qui est inscrite dans, dans ce projet même. Tout à coup, j'ai une sorte de dimension à ça. Mais profondément, ce qui m'a engagé là, c'est que pourquoi j'ai eu envie de ces personnes à la table, c'est pour cette raison-là.
Donc les personnes sont venues tout au long d'un...
On se voyait déjà. Et il y a un moment, j'ai décidé que j'aurais demandé si je pouvais mettre un petit dictaphone pour me ressouvenir.
Ouais.
Parce que je me suis dit, ce qui se travaille là, ce qui se traite là, ce qui se dit là, c'est à peu près tout ce qui va se dire dans les années à venir. Et peut-être aussi toute une série, une forme aussi de pensée, de vivacité sur l'existence, de perspicacité qui est toute différente, qui n'est pas la perspicacité du discours, qui se situe tout à fait autrement. Qui est, je crois, la perspicacité du réseau, du lien, de la circulation. Et ça, c'est tout le projet X, ça, c'est la circulation de l'intime.
Mais alors justement, ce qui est intéressant sur cette perspicacité du discours, c'est que les enregistrements n'ont pas servi à une retranscription du discours qui a été tenu autour de la table.
Pas de discours, de la conversation.
Oui, de la conversation. On a vraiment d'abord l'impression, après bien sûr, il se passe plein de choses, mais on a vraiment l'impression que ça a été d'abord un matériau qui a été réorganisé autour du rythme. Les enregistrements, non ?
Un matériau réorganisé autour du rythme, oui. C'est-à-dire que moi j'ai écouté l'intégralité des repas, je les ai écoutés même souvent deux fois avant de me lancer et avant de trouver le geste d'écrire qui n'était pas simple à trouver, je n'étais pas du tout certain même de le trouver, de trouver cette distance qui permet de théâtraliser effectivement l'objet et puis de l'offrir et surtout de le faire partager à d'autres et d'y dégager aussi la clownerie en fait de ce que je pense que, de ce que nous sommes en fait. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai pas d'autre situation que d'être un pitre, j'en ai pas vraiment d'autres. Je veux dire, ma force à moi, c'est non pas de faire rire, parce que j'ai pas du tout écrit ce spectacle pour faire rire. Je trouve que les gens rient de manière désordonnée, mais c'est pas le but. Le but pour moi, c'était effectivement de lutter contre l'oubli de ce en quoi nous nous engageons aujourd'hui. L'oubli de ces gens-là qui est de leur intelligence, parce que je trouve que l'humour est une intelligence féroce. Et puis de pouvoir offrir ça au public, c'est-à-dire cette manière, cette attitude de regarder, de voir, et cette attitude de capter. Alors ce que j'en ai fait, c'est une partition. C'est une partition que j'ai considérablement réécrite, je n'ai rien retranscrit en fait. C'est vraiment... souvent j'entendais pas bien ce qui se disait, et ma mémoire agissait très très bien en fait. C'est-à-dire j'avais moi, comme je participais au repas évidemment, j'avais ma mémoire qui fonctionnait, je me suis aperçu que j'avais... En fait, c'est un beau travail aussi d'acteur, parce que c'est un travail d'être dans un groupe, c'est un travail de mémoire. Après, je trouve qu'il y a une mémoire du comportement aussi, de la table, une mémoire du... Et ça, je ne l'ai pas filmé, donc ça, c'est ma propre mémoire qui me restitue ça, qui me restaure ça. Et voilà.
Et alors, les interprètes, là, il y en a sept, si je me souviens bien. Les interprètes sont d'abord et avant tout des voix, voire une voix, avant même d'être des personnages qui ne seront jamais réellement.
Oui.
Et est-ce qu'il y aurait des choses à dire sur cette notion-là de l'interprète comme voix et non pas l'interprète comme personnage ?
Moi, je pense que c'est une langue que je souhaitais, je souhaitais que cette langue ne se sédimente pas comme on aime tellement que le théâtre le fasse et que ce théâtre pèse lourd. Il pèse lourd d'ailleurs, parce qu'il pèse lourd en termes de spectateurs, il pèse lourd en termes financiers, il pèse lourd aussi quelquefois sur le plateau, je trouve. Et je souhaitais un geste qui soit léger, effectivement, qui ne soit pas d'ailleurs définitivement rompu avec toute forme de tragédie française, on va dire. Et ce qui m'intéressait, et le principe que j'ai utilisé, les principes qu'on retrouve chez... Peut-être pas exactement de cette manière-là, bien sûr, mais qu'on retrouve chez des gens comme Noël Renaud, qui cisèle la langue de cette manière-là et qui a aussi abandonné le locuteur. Mignana l'avait fait aussi, déjà, et poursuit là-dedans. La perte du locuteur, bon, moi, ayant traversé d'ailleurs des formes romanesques, la perte du locuteur, je l'ai moi aussi depuis les hommes dégringolés. On a plus de locuteur, c'était des corps bouleversés qui parlaient. Donc, là, c'est ce qui m'intéresse, c'est... Pour lutter contre le marbre qui pèse 3 tonnes et dans lequel on grave pour l'éternité, Bien au contraire, c'était que la langue glisse dans les corps. Et la langue n'est qu'une traversée des corps. Elle ne fait que traverser les corps. Que ce soit celui-là, celui-là ou celui-là, on s'en fiche. Et au-delà de ça, ça me permet d'autres narrations. Ça me permet la narration aussi de ce que sont les acteurs sur le plateau. Qui ils sont, eux. Donc c'est un théâtre profondément qui donne son avis, pour moi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont ces personnes, eux, ces acteurs, ils sont qui? Quelles sont ces belles personnes en face de moi? Quelles sont ces personnes qui acceptent que des langues glissent à travers elles et de nous les transmettre? Voilà, et c'était mon gros travail a été de rassembler cette équipe. Dès lors que je l'ai rassemblée, après il y a du travail de plateau, il y avait un énorme travail de partition, etc. Mais mon gros travail, ça a été de rassembler cette équipe remarquable.
Et justement, comment s'est opéré ce rassemblement, ce choix d'acteurs très jeunes?
Ils ne sont pas tous très jeunes.
Ah oui,
tout le monde a l'air très jeune, c'est vraiment de très jeunes acteurs. Non, c'est des gens déjà, pour certains qui débutent, pour certains qui ont déjà travaillé, pour d'autres qui ont même pas mal travaillé, et puis un autre qui est amateur mais qui a beaucoup travaillé, qui a joué avec Madeleine de Varinac, etc. Donc c'est surtout des rencontres humaines. Hein, par exemple, Amélie Jallier, je l'ai rencontrée en Argentine, elle jouait une de mes pièces, Le sang chaud de la terre, en espagnol à Buenos Aires, et je l'ai trouvée extraordinaire, et je lui ai dit, dès que j'ai une possibilité à ce qu'on travaille ensemble, j'aimerais bien qu'on le fasse. Bon, ça s'est présenté. Thibaut Verdet, pareil, qui vient, je l'ai rencontré à Nanterre, quand j'ai fait des stages avec le monde amateur, avec le groupe amateur de Nanterre, et c'est vrai qu'on a eu une amitié est née. Enfin, ce sont des amitiés qui naissent aussi avec les acteurs. Hein. Je suis pas un prêtre, hein, ni un... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport extrêmement, je dirais, humain que j'ai avec eux, qui me fait grandir aussi moi. Et eux. Et après, c'est vrai, après j'ai travaillé, je me suis associé au JTN, qui m'a demandé de venir travailler avec eux, de regarder si ça m'intéressait de... Effectivement, j'ai pris effectivement quatre personnes au conseil qui sortaient du conservatoire et un acteur qui sort du TNS. Oui. Mais c'est des gens qui ont déjà une expérience de plateau, ce sont des gens qui ont déjà travaillé. Bon, c'est vrai que là, ils ont un travail spécifique à faire, très particulier.
Alors justement, sur ce travail-là, en transit, ce qui surprend en premier, c'est vraiment ce rythme des répliques comme ça qui fuse, qui est très rapide, très soutenu. Ça va vraiment dans tous les sens. Là, il y a un briquet.
Non, je cherche une cigarette.
Une cigarette.
Alors, oui, pourquoi tu dis
ça? Ça va vraiment dans tous les sens, très vite. Et on voit que c'est un cœur de sept voix qui jongle, avec brio d'ailleurs, pour dire pour dire leur réplique soit seul, soit en duo, soit même en collectif. Et tout ça se partage comme ça de manière très précise, et j'avais vraiment l'impression d'un réglage, un peu comme si on suivait, on parlait de partition, comme un ensemble qui jouerait de la musique de chambre, et là, ce qu'on regarderait, ça serait en fait le mouvement des musiciens, plus même que leur musique, on aurait les deux à la fois, on aura le résultat de la musique, et puis le mouvement des musiciens, ça très précis, parce qu'il y a aussi des gestuels, les gens bougent, se lèvent, se déplacent.
Oui, mais à ce rythme-là, on peut aussi parler de danse, on peut aussi parler de chorégraphie, on peut aussi parler... Alors peut-être que le théâtre, c'est aussi de la musique et de la danse, c'est aussi de la voix et du corps. Et c'est aussi...
Mais là, c'était mis en avant de manière forte.
Dans le spectacle, ouais. Je crois que le théâtre, c'est profondément du corps et de la voix. Enfin, et de la pensée, et comment créer du sens entre du corps, de la voix et la pensée. Je veux dire, quelqu'un qui aurait réfléchi à comment construire tout ça. Moi, je crois que le théâtre, c'est que ça. Alors après, ça prend des formes quelquefois très excessives, parce que c'est nécessaire. Quelquefois, effectivement, là, on peut se dire qu'on est dans une sorte de musique de chambre, ça, c'est certain. On peut le définir comme ça, mais moi, je crois que simplement, c'est du théâtre. C'est un théâtre qui, simplement, adopte une vivacité qu'il n'a pas forcément l'habitude de montrer souvent. Mais quelquefois, il le montre, parce que on n'est pas le seul à faire à secouer le théâtre comme ça, en lui donnant une valeur rythmique, etc. Depuis les Grecs, on en parle, hein, du rythme de la langue, et comment la langue... Alors, c'est des rythmes lents, longs, ils sont liés aussi à des lieux, et à transmission dans une cité, sous quelle forme. Nous, on est dans une transmission, dans des formes extrêmement courtes, proches des spectateurs, on a choisi la proximité, moi je crois que c'est... Aujourd'hui, il faut parler tout près des gens, il faut aller leur dire tout de suite, très près, très... Les englober dedans, dire qu'on est avec eux, c'est indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est ensemble. Et je pense que ce théâtre aujourd'hui, je ne parle pas que de moi, je pense que le théâtre qui veut être proche des gens, qui se rassemble. Il y a eu pas mal de tentatives des années 70, en fait. On est dans une exploration comme ça de la tentative de relation au public. Et je trouve qu'on ne réfléchit pas assez, et on est bloqué souvent dans les théâtres par des salles beaucoup très très figées, quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne réfléchisse pas davantage aujourd'hui à la place du spectateur, en fait, au théâtre.
Oui, alors justement, mais comme on a là, bien sûr, ça fait partie peut-être de tout du théâtre habituellement, mais là, on est quand même assez sensibilisé tout au long du spectacle au fait qu'il se passe quelque chose de manière sonore, de manière rythmique très vive, à tel point que même, je me souviens d'une séquence de la pluie, qui parle de la pluie, et on a même l'impression que chacun fait des bruits de pluie différents, différentes facettes de la pluie, à travers ce qu'il raconte dans des rythmes, alors que le texte ne parle pas forcément de ça, en fin de compte, et on se met à, nous, à fantasmer aussi.
Alors ça, c'est une autre couche du travail, qui est le travail qu'on ne peut pas abandonner dans le laboratoire mobile. C'est vraiment un travail sur continuer au moins, au minimal, une recherche sur la technologie. Et voilà. Donc là, c'est une recherche sur le son avec Thibaut Hédouin. Que Thibaut a mené, en fait, on a fait beaucoup de tentatives, il a beaucoup cherché, vraiment, un Montluçon, c'était une certaine captation, une certaine restitution publique, ça dépend des salles, voilà. Alors c'est vrai que ce serait Thibaut qui pourrait le mieux parler de son travail sur le son. Moi, ce que je souhaitais, c'est vrai, c'est qu'on traverse toutes les formes de polyphonie, c'est-à-dire que la technologie, si discrète soit-elle, parce qu'en fait, on ne se rend même pas bien compte, mais il y a peu d'éléments du spectacle qui ne sont pas entièrement sonorisés. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte. On l'oublie complètement. C'est discret, c'est persuasif, c'est aussi comment la technologie peut accompagner, en fait, le travail de l'acteur et l'émotion. Ça, pour ça, c'est exemplaire. Le travail de Thibaut est vraiment exemplaire là-dessus. Et c'est très important parce que ça demande aussi une formation, enfin, moi je le dis parce que quand même on a un problème de formation des techniciens en France, ça demande des techniciens qui sont pointus, qui ont envie, qui écoutent, ça demande à tout le monde d'écouter, en fait. Aux acteurs, à la technique, et ça demande la même exigence à tout le monde. Et ça c'est vraiment un des grands leitmotifs du laboratoire. Et d'ailleurs, quand on se retrouve avec des gens de la technique qui n'ont pas envie d'avoir ce travail de précision ou ce goût du travail, en fait, cette curiosité, ces gens sont éjectés de l'histoire. D'eux-mêmes, ils s'en vont. D'ailleurs, c'est toujours dommage, parce que moi, je suis toujours très, très triste de ça. Parce que c'est aussi un des axes très importants de notre travail. Et c'est même plus qu'un des axes, c'est une des composantes du groupe, quoi. Donc, ça me blesse quand ça ne fonctionne pas. Et je trouve que là, il y a des fois ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne très bien. Bon, c'est vrai qu'on est, on est avec des techniciens remarquables, hein. Que ce soit Sophie Kinossian qui a la régie générale des lumières, Patrice Besombe qui a fait la lumière, la création de lumière. Voilà, mais il y a eu tout un travail en commun encore. En fait. C'est vrai que tout se réfléchit ensemble, même si chacun signe sa partie, quoi.
Ouais. Justement, ce plateau, il me semble que déjà il est très dépouillé. On a 7 chaises. Et au départ, une banderole pliée, il y a vraiment un plateau nu là, et on découvre les micros suspendus au-dessus des interprètes, 12 micros. Et on se dit, en fin de compte, on a l'impression en tout cas que, puis très vite ça se confirme dans le spectacle, que ces micros agissent comme des loupes sonores et qu'on a vraiment une espèce d'espace sous observation, qu'on va mettre la vie un peu sous observation grâce à ces micros. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très discret, et en même temps, parfois, ça arrive et ça perturbe un peu, notamment parce que, par moments, la voix des interprètes nous arrive par un autre endroit, où il y a un effet de décalage, on a l'impression que ça prend comme ça... ça nous permet un recul, en fin de compte, et un jeu avec la matière sonore.
Et puis un jeu avec aussi le sens, quoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre à distance aussi, nous, spectateurs, le sens même ce qui se passe sur le plateau. C'est vrai qu'on peut penser, par exemple, cet acte, là on est très proche des spectateurs, c'est un spectacle comme ça. Si on éloignait, par exemple, l'objet du public, cet objet aurait une forme plastique absolument presque comme quelque chose d'élémentaire, en fait, de rudimentaire. C'est comme une sorte. Alors, et c'est très beau vu de loin, par exemple, je l'ai vu moi à Montluçon, c'est très très beau, c'est trop trop beau. Et on est en fait devant un objet, du coup, qui est presque un objet d'entomologiste, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces acteurs sont comme des papillons sur lesquels qui mettent en action, en fait, vraiment une langue. C'est très, très beau. Moi, je préfère la proximité parce que je trouve qu'on ne se pose pas la question de l'art plastique qui est automatiquement évacué dans ce monde. je trouve aujourd'hui qu'il faut l'évacuer le plus vite possible. Je pense que l'objet art plastique, entre guillemets, l'objet plastique est totalement désuet aujourd'hui pour moi. Donc il est question d'intégrer l'objet à la personne et d'intégrer l'objet plastique au spectateur. C'est plus ma démarche, en fait, si on veut donner une dimension d'ordre plastique qui est malgré tout une des composantes de notre...
Et en même temps, on s'amuse aussi à jouer un peu avec cette idée de technologie, parce que par exemple, il y a tout un moment de séquence au ralenti, comme ça, qui part vraiment. En fait, on aurait pu aussi jouer avec les micros à ça, mais là, on fait comme si on avait de la technologie, on ralentit comme si on était sur une bande. Il y a tout un effet, mais c'est fait avec le corps des acteurs, c'est fait complètement de manière artisanale, mais avec des petits clins d'œil, effectivement, à peut-être un univers technologique ou à...
C'est-à-dire que on fait l'inverse, par exemple, de ce que faisait Cadio Lagarde dans ce spectacle très agréable à écouter. On fait l'inverse, c'est-à-dire on ne prend pas la voix pour la transformer, ou pour lui donner du relief, ou pour la démultiplier. On prend la voix uniquement pour ce qu'elle est, et on demande à la voix de jouer avec. Et c'est l'acteur qui joue avec ce qui est au-dessus de lui. C'est l'acteur qui décide si micro. C'est pour ça que ça demande... D'ailleurs, ça demande, en technique, dans la salle, on est en manuel, tout est en manuel, on est obligé d'être en manuel. Parce qu'on peut aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, avoir vraiment un objet automatisé sur lequel on peut agir encore en manuel. C'est-à-dire que ça permet de démultiplier, en fait, l'action humaine, et non pas de l'annuler. Et ça, je pense que c'est une démarche, ça paraît tellement élémentaire de dire ça, mais on fait souvent l'inverse. Et je pense que la technologie, c'est non pas pour annuler le geste, c'est pour le démultiplier et lui permettre une pensée nouvelle. Si ça n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. C'est quand même totalement idiot pour moi. En tout cas, ce n'est pas dans ma logique et dans ma pensée. Et là, effectivement, tout le monde est aux manettes, même aux lumières. On est tellement dans une rythmique précise, il n'y a aucune machine qui peut être aussi précise que les acteurs. C'est merveilleux. Aucune machine n'est assez précise pour les humains. Et il est hors de question que les humains se plient à la machine. Et la machine peut tout à fait se plier à l'humain. Mais au contraire, l'accompagner et l'aider. C'est une autre façon de penser la politique. Et notre rapport au monde, simplement. Notre rapport à la vie, quoi, et à l'autre. Enfin, voilà, c'est ce que je pense.
Alors, sur l'espace, il y a aussi une modification à vue de l'espace à l'aide de ces chaises qu'on déplace, oui. Et quelques accessoires. Et aussi, il y a comme des angles un peu en bois, des lattes en angle. Oui. Qui, il me semblait que tous ces accessoires servaient avant tout de délimitation, qui vont dessiner des espaces... qui sont en fait des espaces de croisement ou des espaces de convergence. C'est comme si on avait essayé de rassembler des choses et puis que ça nous délimitait comme des cibles, un peu comme des lieux carrefour. Et donc j'ai l'impression que tout était sans cesse en mouvement pour provoquer la rencontre, pour provoquer l'échange, voire même pour peut-être soutenir quelqu'un qui chute. Mais il y avait une notion comme ça de rassemblement.
C'est-à-dire que ça fonctionne souvent. C'est une mise en scène qui fonctionne très souvent. Je le vois maintenant, je n'y ai pas pensé avant. Enfin, j'y ai pas pensé, si, mais je m'aperçois à quel point ça fonctionne comme ça, en fait, maintenant. C'est vraiment un rassemblement sur le... Comment dire, on est toujours dans un mouvement collectif et singulier, sans arrêt. C'est-à-dire que sans arrêt, c'est de la pulsation sur le rassemblement et la dispersion des corps. Alors, c'est ce qui se dessine et les croisements des corps. Comment les corps se croisent Oui, c'est qu'est-ce qui nous... Comment... Je trouve pas le mot. Il y a un mot que je cherche et je ne le trouve pas. Qu'est-ce qui étrangle, qui contraint le corps à passer par là? Qu'est-ce qui ferme l'espace, en fait, aussi? Quels sont nos espaces de survie, de folie, de parole? C'est aussi ça, nos espaces de... c'est essayer simplement de donner... Là, il n'est pas question de reconstruire... Voilà. Quoi que ce soit de cet ordre, il est question de donner quelques signes en fait, au spectateur pour que lui-même puisse projeter. Chacun projette son univers. Par exemple, quand on a les coins au sol, alors moi, il y a des gens qui m'ont parlé, oui, ça se passe, c'est vrai que ça se passe dehors. Alors, on est entre un pique-nique, des gens qui draguent, c'est une sorte d'air, on ne sait pas si c'est une aire d'autoroute, si c'est à l'orée d'un bois, si c'est dans une ancienne ruine. Peu importe, chacun rêvera ce qu'il est. C'est un lieu de rencontre, en tous les cas, c'est un multiplex de la rencontre.
Et oui, en même temps, il y a vraiment beaucoup d'humour, par exemple, ou d'ironie, quand on déplie le plan de l'appartement, en quelque sorte, la pièce comme ça, où on a dessiné sur le sol le lieu du divan, le lieu de la table, le lieu de la télévision, Là, il y a aussi quelque chose de très ludique, en fin de compte.
C'est-à-dire, on est dans la mise en scène, il y a quand même une chose aussi, on part de cette... Par exemple, il y a quand même une histoire aussi, des formes aussi là-dedans, hein, parce qu'on parle de la... On part d'une ligne, par exemple, de chaise, et je pense que des gens qui vont au spectacle depuis 15 ans, cette ligne de chaise, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que certains pourront dire, tiens, c'est marrant, on la connaît par cœur, cette ligne. C'est la ligne permanente de l'exercice, en fait, de l'exercice du théâtre contemporain. C'est la ligne qu'on a retrouvée chez des gens, qu'on pouvait voir chez des gens dans des exercices qui avaient lieu à l'époque, que ce soit à Confluence ou ailleurs, auxquels moi je n'ai pas participé, c'est une histoire plus ancienne que moi, ou que ce soit ailleurs. C'est le travail minimal de l'acteur et de son et sur un plateau, un acteur, une chaise, et qu'est-ce qu'on fait
On va faire une petite pause.
Et on part, avec cette ligne, on part vraiment de l'exercice minimal de l'acteur. Et on l'avoue. Et c'est vrai qu'on pourrait dire... on pourrait dire beaucoup de choses, parce que comment sont nés, par exemple, les deux mecs dans les poubelles chez Beckett? Ils sont nés d'un exercice de plateau qui a été fait à cette époque-là. C'est né du plateau, tout ça. C'est des choses très très simples. Comment sont nés, etc. Bon. C'est toute l'histoire du théâtre contemporain là, qui est convoquée là. C'est pas que je veux dire que je convoque Beckett sur scène, ni Mignana, ni Cantarella, ni tout ça. Mais c'est aussi toute l'histoire de ces gens qui m'ont appris beaucoup. Et c'est non seulement pas un coup de chapeau, c'est que je pars de cette ligne pour l'exploser après et donner d'autres points de fuite et d'autres points d'accroche dans l'espace. Je présente un autre exercice. C'est aussi un travail de transmission, ce travail. Si on parle vraiment là, c'est pour l'acteur, pour le travail intra-théâtre. Pour moi, c'était vraiment transmettre des choses qu'on m'a apprises, et puis transmettre des choses que j'ai apprises tout seul aussi, et puis apprendre des choses que je n'ai pas encore transmises, mais qu'on va se transmettre ensemble après. C'est vraiment, j'essaie de faire cette chose qui paraît comme ça exemplaire, et qui l'a complètement été sur ce travail. Et qui l'a complètement été, et je pense que on ne sort pas indemne de cette histoire. On sort vachement nourri, en fait. Mmh. Nourri d'une énergie de travail, d'abord, et d'un goût du travail, que je ne trouve pas toujours dans le théâtre. Je trouve souvent que c'était un peu paresseux, par moments. Pas tous, il y a plein de gens qui bossent remarquablement. Hein, mais... Et je trouve que... J'aime beaucoup les gens qui travaillent, qui cherchent, qui se lancent, qui tendent, qui... Voilà. Et je trouve qu'on devrait donner beaucoup plus d'argent à ces gens-là.
Ah. Voilà. C'est vrai que là, il y a une sobriété dans le spectacle que moi, j'attendais pas, en fin de compte... Dans le dispositif, dans tout ce travail d'ensemble, et que justement, enfin là, c'est clair maintenant quand on entend ça, qui refuse en même temps de rester juste dans la beauté de l'objet plastique, et qui est dans une autre économie, pas simplement celle de l'épure plastique, quoi.
Non, on est même dans cet homme satanique.
Hein. Ah, oui, mais dans cet homme satanique, il y avait quand même un foisonnement de choses.
Ouais, mais c'était pas du tout esthétisant. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas une sorte d'esthétique très belle. On se dit, oh, la belle photo, tout ça. On est toujours emmerdé avec les photographes, d'ailleurs. Il y en a certains qui adorent venir nous photographier, parce que c'est un exercice très difficile de photographier les spectacles qu'on fait. Parce que c'est... On n'offre pas une image toute faite, quoi. C'est à eux de la faire, l'image. Donc, ils sont obligés de travailler. Et il y en a pour qui ça passionne, d'ailleurs, parce qu'on a, d'ailleurs, quelquefois, de très, très beaux objets photographiques. Mais c'est pas destiné. On n'offre pas des belles images, comme ça, toutes prêtes et toutes à la Wilson, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas du tout comme ça.
Ceci dit, il y a quand même par moment des images qu'on trouve belles, notamment avec le travail de la lumière. Il me semblait qu'il y avait des cadrages comme ça de lumière qui venaient, qui modifiait l'espace, bon, même le balai des chaises pouvait donner des choses, mais moi je pensais plutôt effectivement à la lumière où il y a quand même...
En fait, c'est une esthétique en mouvement, c'est vraiment une esthétique du mouvement, alors si on est là-dedans. Ouais. Hein. C'est très très... Moi je trouve que, franchement, alors, moi c'est mon avis, je trouve que dans le spectacle, ce qui est le plus... C'est visuellement plus... C'est étonnant, c'est acheté quand ça bouge. Moi ce qui m'étonne, c'est quand ça bouge, parce que je trouve qu'ils bougent bien d'abord, et qu'ils ont trouvé en eux une fluidité comme ça dans le groupe... fonctionne très très bien dans le mouvement, quoi. Et c'est vraiment le corps de l'acteur qui est convoqué. C'est pas le corps ni du danseur, c'est vraiment le corps de l'acteur, en mouvement, en action, permanente, quoi. Et c'est... J'aime bien ça. Je trouve que... Ce que je trouve de plus beau, là, moi, s'il y a quelque chose de beau, c'est ça pour moi. Enfin, beau.
Et alors, dans les... Je crois que c'est dans le programme des repas, vous parlez d'un théâtre documentaire à propos donc des repas hic. Et dans ce texte et puis dans le jeu, il est souvent question d'écœurement. On a en effet l'impression, on voit que le hockey secoue plusieurs personnages par moment, enfin des interprètes, et on a l'impression que ça apparaît comme une sorte de métaphore de l'écœurement de la bouffe, mais aussi de, peut-être de la politique, voire de la vie. Donc, je me demandais si hic, le H-Y, c'est pas aussi le hic, hockey, et si tout ça, il y a aussi un lien un peu dans cet écœurement, dans ce regard, là, qui, une sorte de métaphore qu'on aurait de.
C'est ce que j'adore, c'est que maintenant on se rend compte qu'avec Ic, on peut en faire des choses.
Ouais.
C'est-à-dire, au début, on m'a dit, oh là là, mais pourquoi tu mets tes initiales, tatati patata. D'abord, ce ne sont pas vraiment mes initiales, mais c'est vraiment un objet marrant. En fait. C'est vraiment un sigle amusant, parce que c'est un sigle qu'on peut décliner. Voilà, c'est un objet profondément ludique. Alors qu'un titre soit ludique, bah, tant mieux. Mm. Et qu'on puisse en jouer, et qu'on puisse en jouer nous dans l'équipe, puis nous, ça nous amuse aussi. C'est vrai que. Alors. Un écœurement de la vie, certainement pas, non. Ça, non. Mais un écœurement de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passait avant même, de ce qui se passe tout le temps. Voilà, alors je pourrais continuer sur ce que je pense de ce monde-ci en ce moment, de cette mollesse dans laquelle on est, de ce manque d'engagement du politique, des décideurs, de. Voilà, bon. C'est vrai que je trouve. Ça, bon, mais on le dit depuis 20 ans, ben, je continue à le dire. J'espère que derrière moi, d'autres diront ça continue, parce que c'est pas. Parce qu'on vaut mieux que ça quand même.
Mais alors justement, il n'y a pas que l'écœurement, mais c'était juste pour revenir un petit peu sur le texte et remarquer ça, enfin qu'il y avait quand même. L'écriture, donc on a dit que c'était aussi l'occasion d'une sorte de. Enfin, il y avait une écriture rythmique qui me semblait être aussi l'occasion d'une sorte de chronique qui emprunterait toutes sortes de réflexions sur la politique, la santé, la cuisine, le voisinage. Et au final, on a quand même une sensation de poésie avec des bribes du quotidien sur le principe du collage, et qui est souvent, ce principe-là est souvent la source de collisions assez étranges, du genre, il y en a un qui dit « la vie est compliquée », l'autre lui répond « je t'en verse une larme », etc. Et il y a comme ça une espèce de jeu aussi.
C'est pas du collage, hein, en fait, pas du tout. Okay. C'est pas du collage, c'est vraiment la captation du. Alors là, ça, c'est la captation directe du réel. Le réel se passe exactement comme ça. Hein. J'ai pas du tout procédé par collage, en fait. Non, je fais pas. Novarina procède par collage, moi non, en fait. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les corps, parce que je pense qu'il y a une chose importante, et le hockey, c'est que je crois aussi qu'on parle de corps malmenés aujourd'hui, et on parle de corps abîmés. On parle de corps qui sont. Assez abîmé par le politique en ce moment, particulièrement aujourd'hui. Je pense que si on regarde dans la rue comment les gens se comportent et comment les gens sont, si on regarde ce que les gens ingurgitent à table comme boisson, si on regarde ce que les gens prennent comme... Je n'ai jamais vu autant de gens d'abord être en répression sur eux-mêmes, en compression sur eux-mêmes, en interdiction sur eux-mêmes, en censure sur eux-mêmes, et en même temps, par effet inverse, en totale débandade sur la nourriture, sur la boisson, sur ce qu'on ingurgite, sur la folie. Moi, j'ai vu dans le métro hier, j'ai vu deux jeunes femmes manger des chips, mais si elles avaient pu se mettre le paquet de chips sur la tête, elles l'auraient fait, quoi. Et c'était violent, en fait, ce qu'elles faisaient. Quand on les regardait, alors, c'est parmi les gestes ordinaires, alors... Et ce geste ordinaire, il est effrayant. C'est pas qu'elles étaient effrayantes, les jeunes femmes, elles étaient très très charmantes, mais elles étaient abîmées, on voyait bien qu'elles mangeaient mal, qu'elles mangeaient bien désordonnées, que tout ça était n'allait pas, enfin il y a tout qui déconne, quoi. Les corps qui marchent dans la rue, quand on les regarde marcher, les corps sont épuisés. Il y a des gens qui marchent plus vraiment droit, non pas parce qu'ils sont sous. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler sur la faim, sur ce corps totalement abîmé de cette femme, qui n'est pas saoule.
Non, ça on le sent bien,
ça on le voit bien.
On sent le désespoir.
Et c'est pour ça que c'est un. On sent la maladie aussi, on sent le corps malade, on sent une société malade. Et les corps là sont en train de lâcher, les corps sociaux lâchent, les corps de tous les jours lâchent, nos corps sont au bord de lâcher, les gens sont épuisés, les gens sont fatigués, les gens sont bourrés de médoc. Il faut savoir aussi dans quel monde on parle.
Oui, ce qui est beau là, c'est qu'il y a un soutien des autres, et en même temps, ce soutien il ne va pas jusqu'au bout non plus, puisqu'on. Ils vont tous de leur côté ensuite, une fois que chacun l'a soutenu. Et puis la fille continue à chuter seule. Et je trouvais que c'était bien de ne pas rester juste dans... ah oui, toi, on est là, on te soutient, quoi. Il y a, hop...
C'est plus compliqué, là.
Voilà, exactement.
Je n'ai pas répondu à la question suivante, mais néanmoins...
Alors, non, pour un peu pour finir, je voulais élargir l'entrevue sur la notion du, enfin, sur l'idée du travail de chanson, puisqu'il y a en parallèle, donc de là, la proposition qui est faite au Théâtre de la Bastille, les 20 et 21 décembre, il y aura les chansons Hic.
Oui.
Alors, je voulais savoir un peu si ce travail de chanson s'écrivait aussi dans une approche similaire, à savoir un regard rythmique, poétique, critique sur le monde, et comment on pourrait un peu présenter cet autre élément-là de l'univers Hic.
Alors, c'est un autre élément, mais qui est né en fait, alors là il y a assez longtemps, et on a enregistré ça, on enregistre toujours d'ailleurs, ça a commencé, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'avec le musicien et ami d'ailleurs Olivier Rochemort, de manière totalement amicale chez lui, à la Villette, dans l'appartement, bon, on passait souvent des soirées ensemble à l'époque, c'est des époques où moi j'étais beaucoup moins visible qu'aujourd'hui, et même invisible on va dire, et donc moi j'écrivais beaucoup, j'étais très très dans ma bulle, dans mon cocon, avec mes amis, mon monde, tout ça, et on était dans cet appartement, il est pianiste, tout ça, et donc on jouait des choses, et puis de temps en temps je pouvais donner un petit air, comme ça, d'impro, hein, où j'ai inventé les paroles en même temps, et puis on s'est pris au jeu, on a fait ça pendant 3-4 ans. Puis un jour, on s'est dit, c'est con, il faudrait qu'on enregistre ça, parce que il y a des chansons qui nous plaisaient, puis on s'en souvenait plus vraiment. Donc on a enregistré, mais sur un petit magnétophone, hein, et puis moi j'ai donné les bandes à Thibaut, parce que dans cet homme, il y avait les chansons qui étaient incluses dedans, les chansons étaient incluses, mais de cette manière magnétophone, mais très restaurée, parce que c'était une captation, vraiment de merde. Donc il a vraiment, Edouin a vraiment restauré, d'ailleurs, enfin, boulot fou là-dessus. Et puis après, on s'est dit, on continue nos enregistrements. Ici, on les faisait en enregistrement correct, propre, enfin bien avec Thibaut, si on faisait ça. Et puis on l'a fait. Et puis ça a donné lieu à ce qui est devenu donc, les chansons en fait qu'on chante aujourd'hui. C'est-à-dire la magie a opéré entre Olivier et moi et Thibaut. Et on a un plaisir fou à travailler ensemble. Alors, on en garde certaines, mais on les garde dans leur intégrité. Mmh. C'est dans l'intégrité de ce moment. De ce maintenant, de l'instantané dans lequel ça a eu lieu. Et c'est vraiment le travail sur l'instantané particulièrement, et qui se rejoint avec les repas. C'est une chose comme ça, mais alors vraiment la forme est tout à fait différente, parce que d'abord je suis sur le plateau, c'est moi qui chante, c'est vraiment un numéro de variété, de music-hall. Là, qui plus est, maintenant j'inclus dedans des morceaux qui vont être faits avec des instruments sur le plateau, c'est-à-dire avec des musiciens, et notamment avec une fanfare. Donc voilà. Donc il y a plein de nouveaux morceaux que personne ne connaît.
Des inédits.
Oh, plein. Et notamment tous les morceaux avec la fanfare. Et moi, c'est toujours pour me rejoindre à une tradition, on va dire, populaire, au sens plein du terme. La chanson, c'est populaire. Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément ça. Mais comme les repas, c'est aussi un geste, peut-être, on va dire, je ne sais pas comment on peut qualifier ce geste, peu importe, mais musical, chorégraphique, peu importe. Mais c'est un geste qui directement parle aux gens. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas vraiment de problème avec le spectateur, en tout cas. Le grand public, je pense, peut être très friand de ce genre d'aventure-là. Et ça peut le concerner directement. Les chansons, c'est pareil. C'est vraiment une ouverture et une invitation à d'abord à prendre les choses absolument pas gravement, tristement, mais c'est une invitation à se lever, à se battre, à danser, à piétiner, à continuer à, comme dit, comment dire, un pièce à se tortiller, quoi, dans cette vie. À pas arrêter de parler. Voilà, mais. C'est ma manière de faire des discours, moi. Je ne fais pas de discours.
Ok, et ben merci beaucoup. Et donc, à très bientôt pour les chansons.